une petite musique pour faire patienter.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? Tellement seule derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner. Loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, ou j'oublie tout et je m'en vais. Yeah. Moi, je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seule derrière ton écran. Tu penses à ce que.
Où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission des travailleurs infatigables du commerce et des industries d'alimentation réunies, qui en fonction de l'actualité politique, culturelle ou autre, bref, dans laquelle nous vivons, l'anime en direct chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois. Je ne vois rien, sans retenue ni complaisance, sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire, si vous le voulez bien.
octobre 2025, du 29 Vendémiaire en 234, du calendrier républicain français révolutionnaire, 10 jours de l'orge. Oui, après avoir été bien inspiré à la rédaction de mon édito du 20 septembre, par des thèmes aussi familiers désormais que les slips, la prostate, l'urologie, je me suis rendu compte que nous étions le 20 octobre. C'est pour ça que j'ai un peu... Je suis obligé de te reprendre. Et là, d'un coup, hein, pop, une inspiration. Donc, je suggère aux neurologues de proposer le 20 octobre, journée du trouble de la mémoire et de la déficience mnémonique. C'est peut-être déjà fait un autre jour, on me dirait, mais voilà, moi, je m'en souviens plus. Alors, pour que tout ne soit pas perdu quand même, c'est un 20 octobre 1944 que le Guatemala célèbre sa fête de la révolution qui renversa le régime dictatorial de Costa Nieda. Et posa les bases de la démocratie. La démocratie bourgeoise, hein, sûrement. Je ne connais pas bien le Guatemala, en fait. Mais c'était pour moi l'occasion d'évoquer Maria Dolores Bedoya, une militante indépendantiste guatémaltèque, née un 20 septembre. Bah oui, j'essaie de me rattraper. 1783. Voilà, on lui attribue surtout la mobilisation des femmes pour qu'elles participent au mouvement indépendantiste. Voilà. Et c'est un 20 octobre aussi, encore, mais en 1985, que disparaissait Jean-Roger Caussimon, auteur, compositeur, interprète français. Il est notamment connu pour diverses chansons mises en musique et popularisées par son ami Léo Ferré, chansons telles Monsieur William comme Ostende, et Le temps du tango, mais ce ne sont pas ces chansons que vous entendrez ce soir. Et ce soir, nous recevons trois invités, Odile, Luc, Jeanne, et nous évoquons France Travail, anciennement Pôle emploi, et encore avant ANPE, et notamment l'attitude de France Travail face aux salariés en fin de carrière. Donc, ce soir, Eric, l'animation ne va pas chômer. Et à la technique, Bénédicte nous imposera des périodes d'interruption forcée de notre activité radiophonique avec des chansons aussi tristes que moroses. Et ça commence tout de suite avec un hommage à Jean-Roger Cossimon.
Enfant, vous n'avez plus de rose, ni de plume, ni de chapeau. À qui la faute, à qui la cause, s'il n'est plus de fleurs, ni d'oiseaux. Les roses sont artificielles, l'oiseau qui passe, on le flinguait. Et sur les statues officielles, des pigeons noirs seuls font le guet. Mon fils étant la fleur de l'âge, et moi qui viens du temps jadis, je m'en vais pointer au chômage, où s'inscrira bientôt mon fils. Ô jeunesse, retiens tes larmes devant le mur de l'avenir, car si ton pays vend des armes, ce n'est pas pour t'entretenir. L'existence qu'on nous fait vivre, nazi au creux des transistors, corps du dollar et de la livre, du Deutschmark et du lingot d'or. Un ministre prend la parole. Notre avenir dépend, dit-il, de l'indispensable pétrole et du prix d'achat du baril. Nous voilà déjà nucléaires, et vous verrez, tout va changer. Ne craignez rien, laissez-vous faire, on vous dit que c'est sans danger. Mais d'autres disent le contraire, monsieur Rostand, monsieur Bombard, mais ce sont des retardataires, de grands rêveurs, des gens à part. Sur les fleuves et sur les vagues, des poissons vont le ventre à l'air. Au large du Cap de la Hague, on immerge des containers. Alors je rêve que s'éloignent, comme voiliers sur l'océan, toutes les îles de Bretagne, de Belle-Île jusqu'à Ouessant. Les pauvres gens, on les entasse, c'est qu'explique les promoteurs. Les mètres carrés en surface ne sont rentables qu'en hauteur. C'est ainsi que les morts eux-mêmes, qui hier encore ont enterré, ont leur cimetière HLM. C'est incroyable, mais c'est vrai. Enfant, vous n'avez plus de rose, ni de plume, ni de chapeau. À qui la faute, à qui la cause, s'il n'est plus de fleurs, ni d'oiseaux.
Ah, bah je ne sais pas, ça a coupé. La chanson s'est coupée, décidément. Ah, oui. La chanson s'est coupée.
Oui, si pas les micros, pas
j'ai pas compris. Mais il reste 2 minutes 19. Il reste 2 minutes 19, normalement, sur
bah,
la
écoute,
chanson.
Si on n'entend plus rien, c'est qu'il n'y a plus de...
C'est une catastrophe. Ouais. Bon. Moi, c'était Jean-Roger Cossimon. Avec Enfant, vous n'avez plus de rose et vous êtes à l'écoute du monde merveilleux du travail sur Radio Libertaire, 89.4 MHz, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Oui, encore une émission laborieuse. Hein?
Qui se doit.
Donc, ce soir, nous avons trois invités. Luc. Bonjour, Luc.
Bonjour.
Voilà. Jeanne.
Bonjour.
Et Odile.
Bonsoir.
Et Eric à l'animation. Ouais, et oui. Ce soir, l'émission est consacrée à France Travail et notamment aux.
Non, pas à France Travail.
Enfin, pas.
Aux usagers, salariés.
Ça va concerner quand même France Travail parce que c'est un petit peu qui gère un petit peu les chômeurs, les salariés privés de travail, non ? Enfin, qui gère. En tout cas, qui.
Qui mal gère, même les gens qui ont une activité et qui souhaitent se former, ce qui était mon cas, et qui financent la formation, donc là on pourrait dire France Travail, et puis en cours de route, alors que l'usager salarié est en formation, et qui s'imagine, puisque c'est un vieux salarié, que lorsqu'on est en formation, on a forcément droit à avoir une allocation de retour à l'emploi formation, bah, découvre au bout des 3-4 mois, parce que ça durait quand même longtemps la formation, bah, qu'il ne reçoit aucun revenu. Alors, c'est un choc, mais en même temps, le salarié citoyen lambda, Jeanne, se dit, il faut que j'ai mon diplôme, parce que j'ai dépensé tellement d'arguments pour convaincre mon conseiller France Travail que c'était pertinent de faire cette formation. Et donc, je fais mon rapport de stage, je prépare ma soutenance, je passe mon examen, et je ne m'occupe pas de mon compte en banque, puisque je n'ai pas le temps de tout faire. Et j'ai pas le temps non plus d'aller à France Travail pour leur dire, mais où sont mes sous? Donc voilà, mais j'ai mon diplôme, donc bah, comme je suis encore une fille soi-disant de la République, je suis toute contente d'avoir un diplôme. Et puis après, bah, je me précipite dans la mesure de mes moyens chez France Travail. Et alors je revois un monsieur qui me dit, ah bah oui, ça n'a pas été géré, oh, je m'en occupe, mercredi, vous aurez un virement. Sauf que j'ai pas de virement. Alors la semaine suivante, je ne sais pas quelle est la semaine, si c'était la 27, la 28e ou c'était en juin, je n'ai pas regardé le numéro de la semaine. Je suis allée tous les jours à France Travail pour essayer de comprendre. Et un monsieur, très gentil, au demeurant, m'a dit, mais madame, vous êtes censée toucher une retraite. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de revenus. Alors, en plus, ce monsieur, ce jour-là, il avait deux cas bizarres, moi et un autre monsieur. Je vous ferai grâce de l'autre monsieur, puisque je ne connais pas suffisamment bien l'histoire. Et donc, j'y suis allée tous les jours. Ils m'ont produit des décisions. Alors, j'attire votre attention, parce que c'est quelque chose quand même de très particulier. J'ai reçu un document sur lequel c'était écrit premier paragraphe en caractère majuscule, deuxième paragraphe en caractère minuscule. Et quand je me suis présentée avec les documents, bah j'ai dit, bah, de toute façon, si je ne me manifeste pas, je fais l'objet d'un traitement social dans les 13 jours, tel que c'est indiqué dans le deuxième paragraphe. Et à ce moment-là, la dame me dit, ah ben non, parce que le paragraphe en haut, il est beaucoup, 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 beaucoup plus important, mais ce n'est pas du tout écrit dans le corps du texte. Donc vous ne pouvez pas faire l'objet d'un traitement social puisque vous êtes à l'âge de la retraite. Sachant que donc le monsieur de France Travail, le deuxième, hein, le premier il était très aimable, mais il ne m'a pas fait de virement. Le deuxième, il m'a dit beaucoup de choses négatives sur les caisses de retraite. Alors, la seule chose positive à cette étape, c'est que moi qui croyais dépendre de 3 caisses de retraite, en fait, je dépends, c'est officiel maintenant, de 5 caisses de retraite. Et que par contre, je les ai toutes contactées. Je les ai toutes eues en ligne, contrairement aux propos du monsieur de France Travail, très vite, et qu'elles m'ont toutes répondu par écrit dans les délais qu'elles m'avaient annoncés au préalable. Donc, quand on est à France Travail et qu'on dit du mal des caisses de retraite, en tout cas pour moi, ma petite expérience de Jeanne, hein, je ne vais pas généraliser, mais quand même, je vous rapporte mon expérience du mois de juin 2025, les caisses de retraite répondent présentes, et elles répondent et elles envoient des écrits.
Voilà. On voit que c'est... Tout est simplifié. Hein, pour les démarches, tu dépends de 5 caisses de retraite, c'est bien.
Ah bah oui, c'est très sophistiqué. Hein. Mais ma vie a été tellement long fleuve tranquille, tu comprends, que j'ai fait plein de... Il faut dire qu'il y a une caisse de retraite, j'ai dû bosser 6 mois dans le secteur agricole, tu comprends. Mais bon...
Bon, en tout cas, tu es rentré dans le vif. On n'a même pas eu le temps de présenter tous les invités autour de la table.
Ah bah non, moi...
Tout de suite, témoignage.
Oui.
Voilà. Alors... Chers auditeurs, auditrices, là c'était Jeanne, que vous avez déjà entendu sur les ondes de Radio Libertaire dans d'autres émissions il y a quelques années auparavant. Peut-être te présenter quand même. Tu appartiens à une.
Ah ben moi j'appartiens à une organisation syndicale.
Voilà.
Bah oui, depuis très très longtemps. Et qu'est-ce qu'il faut que je précise?
C'est tout. Après, bon. On va passer.
Ben voilà.
Bah Odile.
Bah, moi, je peux enchaîner sur une information qui était parue dans...
Tu peux te présenter aussi,
oui.
Si tu veux. Hein.
Ah bah oui, bah, moi, je suis une militante féministe, collectif national pour les droits des femmes, et j'ai aussi milité dans les associations de chômeurs et de précaires. Donc, voilà, comme Jeanne m'avait prévenu qu'il y avait cette émission, et donc j'ai enquêté un petit peu autour de moi, et j'ai recueilli des témoignages de 6 personnes. Alors, sur le problème de la fin de carrière et du passage à la retraite. Alors, je peux vous dire que sur ces 6 personnes, il y a 2 hommes qui sont nés dans les années 40, juste après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont eu des carrières, enfin, qui n'ont pas connu du tout ni le chômage ni la précarité hein, en étant jeunes, et qui ont eu des bonnes carrières, qui ont pu bien gagner leur vie jusqu'à environ 48 ans, 50 ans, et puis tout d'un coup, boum, un licenciement.
Oui, c'était l'époque de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses.
Oui, c'était ça.
Effectivement, c'était une période de reconstruction de la France,
mais
c'était l'après-guerre.
En fait, dans cette période des Trente Glorieuses, en fait, il y a déjà eu plusieurs générations différentes. Alors, cette génération-là, tout d'un coup, ils se retrouvent licenciés vers l'âge de 48, 50 ans, entre autres raisons, parce que à partir des années 80, 1985, il y a eu une politique des entreprises, hein, tout simplement, de décentraliser les activités de fabrication vers les usines de province, et puis de plus en plus aussi vers l'international, dans les pays de l'Est notamment, pour un de ces cas-là.
C'est vrai que les années 80, c'est les années de l'ultralibéralisme qui s'impose, c'est le réganisme, c'est le thatchérisme.
Oui.
Donc effectivement, on n'est pas dans une ère... On a fini avec les années 70. Hein.
Et donc, mais je dis quand même une chose. Donc, ce sont des personnes qui ont commencé jeunes à travailler, qui ont pu évoluer, même l'un d'eux est devenu... Les deux sont devenus cadres, d'ailleurs. Et puis, donc, leur carrière s'est arrêtée à un moment donné. Et après, ils étaient effectivement à la NPE, hein, bon, à l'époque. Et l'un d'entre eux n'a jamais retrouvé de travail, et l'autre avait plus ou moins créé sa propre entreprise pour faire des activités de consultant. Bon, mais ce qu'il importe de savoir, c'est que dans les années 90, on avait encore des dispositifs qui permettaient de faire la jointure entre cette période de licenciement, de passage à la NPE, et puis la retraite. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de 10 à 13 ans où ces personnes-là se retrouvées à la NPE et ont pu toucher... Alors à l'époque, il y avait l'allocation unique dégressive. Alors, il faut quand même dire qu'à l'époque, à partir de 55 ans, quand on était senior, on avait droit à 5 années d'indemnité chômage. Quand on avait de 50 à 54 ans, on avait droit à 3 ans et 9 mois. Et donc, ensuite, on enchaînait, quand ça a été terminé, on enchaînait avec... l'ASS, hein, l'allocation de solidarité spécifique, qui permettait de continuer à accumuler des trimestres pour la retraite. Donc, ces personnes-là, pendant une bonne dizaine d'années, elles ont été dans ces situations. Et pour finir, retraitées à 60 ans, après avoir quand même galéré pas mal, parce que l'ASS, c'était 400 euros dans ces années-là. Ils faisaient un petit peu de petits boulots en plus. Alors, il y avait des systèmes de cumul qui étaient assez larges, qui permettaient de travailler un petit peu. Et puis, on suspendait l'ASS. Puis après, dès que l'activité était terminée, on la reprenait, bon, etc. Bon, ça, c'est une première catégorie de personnes. Après, j'ai 3 autres personnes qui sont des femmes nées dans le début des années 50, pour qui la situation a déjà été beaucoup plus compliquée, parce que ce sont des femmes qui sont arrivées dans le marché du travail après le premier choc pétrolier 1973, et qui ont galéré jusqu'à l'âge de 30 ans pour trouver un emploi stable. Donc elles avaient déjà une expérience du chômage et de la précarité en étant jeunes. Et ensuite, 20 années avec un travail rémunéré à peu près correctement. Et puis ensuite, le licenciement. Alors, pareil pour l'une d'entre elles, à cause de restructuration. Elle travaillait dans une multinationale. Il y a eu des grosses restructurations. Donc, elle a été licenciée à 50 ans. Et à partir de là, pendant 15 ans, elle a travaillé, elle a touché... l'allocation, la ARE, l'allocation de recherche d'emploi,
pendant un certain nombre
de retour à l'emploi, oui, c'est ça. puis la SS, avec des systèmes de cumul, avec des petits boulots de marketing téléphonique, etc. Ce qui lui a permis de repousser ses fins de droit, enfin. Mmh. Voilà. Et ensuite, elle a retrouvé un emploi d'auxiliaire de vie scolaire où elle s'occupait d'un enfant handicapé. Et puis ensuite, elle s'est retrouvée à nouveau au chômage et en allocation, enfin, avec un système à la fois d'allocation de recherche d'emploi plus un système de portage salarial, parce qu'entre-temps, elle avait repris des études et passé un diplôme de psychologie et elle commençait à exercer comme psychologue pour différentes institutions, mais elle était finalement dans un système de portage salarial cumulé avec l'allocation de retour à l'emploi. Voilà. Et enfin, j'ai comme ça des petits exemples. Et donc... je pourrais continuer. Il y en a une autre qui a été, enfin, qui était entre autres technicienne pour Radio Libertaire à un moment donné. Elle s'appelle Anne. Alors elle dit des choses encore plus terribles. Elle s'est retrouvée licenciée à 47 ans dans les années 90.
Elle n'a pas été licenciée de Radio Libertaire. Hein.
Non, pas du tout. Elle s'est retrouvée à
47 ans.
C'est pour dire quand même que ces situations-là, pendant une période, ces situations ont permis d'envisager de faire des activités qu'on n'avait jamais fait auparavant au cours de sa vie. Hein, notamment des activités associatives, artistiques ou toutes sortes de choses. Et ça avait quand même un côté très positif parce que ça permettait à la personne de se resocialiser. Donc, elle, pareil, elle se retrouve mise à la rue du jour au lendemain de son emploi. Elle avait d'ailleurs fait au maximum des emplois d'une durée de... Enfin, des CDD, bien sûr, puis des emplois d'une durée de 2 ans ou un au maximum 2 ans et demi. Donc, elle avait toujours alterné chômage et petit boulot. Elle a eu une période en plus où elle était partie à l'étranger pour suivre son compagnon. Elle est revenue, donc elle avait droit à rien parce qu'elle n'avait pas été salariée pendant cette période-là. Et donc, à ce moment-là, elle a retravaillé, elle a retrouvé des droits. Et donc, vers 1995, elle se retrouve au chômage. 1997, elle arrive en fin de droit. Pendant un an, elle vit avec ses économies parce qu'elle ne voulait pas demander la SS. Elle demande la SS et là, à peu près, elle est restée à peu près 15 ans en ASS et en faisant aussi différentes... enfin, surtout, elle avait quand même l'aide de sa famille, cette personne-là. Et en 2012, tout d'un coup, on lui interrompt son ASS, on lui dit « Vous êtes à la retraite ». Mais elle n'avait rien préparé de son dossier de retraite. Elle ne savait pas. Elle avait 62 ans à l'époque. Et là, elle tombe malade. Elle a la maladie de Parkinson. Et c'est la caisse de retraite lui a fait son relevé de carrière. Mais certainement, elle n'a rien pu contrôler ni vérifier. Et je pense que voilà, elle a une petite retraite de 1000 euros. Et ça s'est passé comme ça, sans qu'elle ait pu faire quoi que ce soit pour vérifier que son relevé de carrière était exact. Ça lui a été fait. Voilà, mais toujours avec des gens qui ont fait beaucoup d'activités bénévoles, associatives, et quelque part, ça avait un côté quand même très positif. Bon, aujourd'hui, il faut quand même se remettre dans la situation actuelle aujourd'hui, où on nous... on oblige les gens à partir à la retraite plus tard, puisque ça a été 62 ans, puis 64 ans. En même temps, on diminue la durée des allocations de chômage, parce qu'aujourd'hui, hein, pour une personne de 50 ans, il n'y a plus que 18 mois d'indemnité de chômage, et pour une personne de 57 ans, il n'y a plus que 27 mois d'indemnité de chômage. Bon, pour le renouvellement de la SS, c'est aussi devenu plus difficile. Les dispenses de recherche d'emploi ont été supprimées, parce qu'auparavant, une personne de 55 ans était dispensée de recherche d'emploi. Aujourd'hui, au contraire, les plus de 55 ans sont dans le collimateur. Voilà. Mmh. Donc, il y a eu un nouveau décret qui est passé, en plus, parce que c'est le décret sur les sanctions qui est paru au 31 mai dernier. Donc, on aggrave les sanctions, on contrôle beaucoup plus les demandeurs d'emploi, et les gens qui sont en ASS et les seniors sont très souvent contrôlés. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est tout ça qui a... Bon, il y a eu aussi la disparition des dispositifs de pré-retraite, de l'allocation du Fonds national de l'emploi. Tout ça sous Sarkozy. Hein. Énormément de choses ont été faites sous Sarkozy. Voilà.
Bah oui, oui, la casse du droit du travail s'est bien accélérée sous Sarkozy. Hein, par 2008, ça a été quand même quelque chose de pas mal. Mais ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu quand même à du harcèlement gratuit, hein, tout ça, parce que tu réduis les... Enfin, quand je dis tu... On réduit le taux des allocations, on t'oblige à travailler, on te surveille, on te... En fait, le but, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir de diminuer le nombre de demandeurs d'emploi en les radiant, peut-être aussi, non?
Bah, y a énormément dans la réalité de gens qui se désinscrivent ou qui ne renouvellent pas leur inscription parce qu'ils n'ont pas envie d'être contrôlés sans arrêt par France Travail. Je crois que c'est ça qui se
passe aussi. Donc ils réussissent. C'est vraiment du harcèlement qui arrive, enfin qui aboutit dans l'objet, c'est-à-dire d'avoir moins de... Une statistique qui est en baisse.
Ouais. Moi, Jeanne. Je propose un instrument de mesure très simple. On a tous chacun au moins un code du travail d'une année différente. Donc tu te prends tous les codes du travail et tu verras, tous les codes du travail, ils sont de plus en plus lourds. Parce qu'il n'y a plus de principes généraux, il n'y a que des dérogations. Et donc plus tu as de dérogations, ça veut dire qu'en fin de compte, ben, c'est délitement et c'est les gens qui s'épuisent. Et même les gens... Moi, je bossais, tu vois. J'ai laissé mes deux boulots pour aller en formation. Heureusement, j'ai préservé une relation avec un de mes employeurs, parce que sinon, moi, j'avais 45 euros de revenus au mois de juin, tu comprends? Parce que j'ai bossé quelques heures au mois de juin.
Oui.
Et qu'après, j'étais en liste, comment on appelle ça, en interdit bancaire.
Mmh.
Et qu'entre-temps, je n'avais pas suivi l'actualité, et que l'interdit bancaire, maintenant, c'est 5 ans. Hein, ça ne dure pas un an, ça dure 5 ans. Voilà, mais bon, je te rends la parole.
Non, mais c'est... Bah, je pense qu'on peut peut-être la donner à l'une, déjà, qui va se présenter, parce que... On l'a pas beaucoup les...
Non, mais j'attendais mon tour, hein, pas de souci. Non, moi, effectivement, je suis salarié à France Travail et je suis syndiqué à Sud, Solidaire Sud, Sud Emploi. Voilà, parce que nous, on a, entre autres, comme revendication, je reviendrai après sur la situation, mais en tout cas, une de nos revendications, évidemment, c'est déjà par rapport à ce qui a été dit par Odile, c'est... l'abrogation de la loi plein emploi et le retrait du décret sanction qui est paru. Ça nous paraît être la moindre des choses à revendiquer dans le cadre de la défense de l'ensemble des travailleurs avec ou sans emploi. Mais pour revenir un peu sur la situation, à ce que tu as dit, ça illustre quand même la dégradation. Hein. Bon, tu es revenu sur... un peu l'historique, et notamment Sarkozy, mais cette dégradation, évidemment, elle s'est poursuivie avec Macron, les bientôt deux quinquennats Macron, qui quand même, je pense qu'on peut le dire, relève, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, de l'acharnement quand même sur les privés d'emploi, les précaires, les chômeurs quand même, parce que c'est, on est quand même passé d'une situation entre 2012 et 2017 pardon et aujourd'hui à une réduction drastique et de la durée des droits, voilà, hein, tu en as parlé, mais là maintenant on est effectivement à 18 mois, hein. Il y a une, je sais pas si vous avez entendu aussi parler de Attal qui a déposé un projet de loi, donc je sais pas si ça ira jusqu'au bout, mais enfin un projet de loi qu'il avait déjà eu en tête quand il était Premier ministre et puis qu'il a gardé sous le coude, de passer à la durée maximum à 15 mois. Voilà, donc là, on est sur cette trajectoire-là de leur point de vue. Donc, diminution drastique de la durée, diminution du montant aussi, là qu'on observe avec la réforme de 2021. Voilà, où on voit en moyenne, hein, c'est quand même, on est sur du... En moyenne, après, ça dépend bien sûr, mais on est quand même sur du 15-20% de diminution du montant, comme c'est quand même significatif. Augmentation des... de la durée nécessaire pour pouvoir ouvrir les droits, puisque avant c'était, il faut se rappeler, c'était 4 mois quand même jusqu'à 2019, hein. Mm-hmm. 4 mois, c'était maintenu un peu pendant le début du Covid, puis après ils sont tout de suite passés à 6 mois, Et là, Attal, pareil, là, ce serait de passer à 8 mois aussi. Donc voilà, donc on a ce, aussi ce mouvement aussi, d'augmentation de la durée nécessaire pour, dans un contexte où, bah oui, ça a été dit, hein, les, tous les boulots précaires, etc., qui font que c'est compliqué de, d'arriver à réunir tout ça. Il y a ce mouvement-là. Il y a le mouvement de durcir aussi les... Enfin, de rendre plus difficile l'accès aux droits aussi, parce que de manière... il y a une dématérialisation comme généralisée. Alors bon, ça concerne bien sûr... Je vais revenir après sur la retraite, mais de manière générale, voilà, comme le fait d'être obligé de toute façon de s'inscrire de façon dématérialisée, c'est que sur Internet.
Il faut avoir effectivement du matériel, voilà, déjà, tout à fait. Pour ça. Et effectivement, c'est pas quand tu es au chômage ou à RSA que tu peux avoir du bon matériel.
Voilà.
Alors, faut aller dans les... mais ouais, même si on va dans les... Comment, les dans des lieux
où... Les services et tout ça. Café, voilà, café,
c'est, ouais. Faut payer quand même.
Voilà, donc il faut avoir du bon matériel, il faut se débrouiller pour répondre aussi tout seul aux questions, sans dire trop de... Voilà, parce que ça...
Il faut savoir effectivement bien lire, excuse-moi, je t'interromps plus. Il faut savoir effectivement lire, bien maîtriser le français. Savoir lire et écrire, c'est effectivement les personnes qui sont issues de l'immigration et qui n'auraient pas effectivement un parcours scolaire traditionnel pour quelqu'un qui est né en France, ouais, ça doit être assez difficile.
Bah ouais, tout à fait.
En tant que syndicaliste... Je me rends compte déjà avec mes collègues qui travaillent, mais c'est bien qu'on soit derrière pour leur relire soit le contrat, soit des avenants, soit leur donner des explications sur la fiche de paie, ne serait-ce que ça.
Excuse-moi, je te rends
la parole.
Non, mais c'est pareil, oui, effectivement, par rapport aux allocations chômage, fonction de comment tu vas remplir aussi le questionnaire, bon, ça a des impacts hein, sur derrière, évidemment. Bon, un exemple concret, la démission et les cas de démission qui permettent d'ouvrir droits aux allocations. C'est pas le cas. En général, le principe, c'est qu'il n'y a pas d'allocation. Il y a des cas où c'est possible. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut connaître, par exemple, et donc les implications qu'il peut y avoir. Donc c'est d'autant plus important quand tu es confronté à l'ordinateur et que tu es tout seul à devoir répondre aux questions, au formulaire d'inscription, répondre à toutes les questions qui sont posées. Et donc ça, c'est un impact, et de manière générale, sur les droits, et c'est un impact aussi de la dématérialisation forcée, en plus, bien sûr, de la. Le durcissement des conditions, bah sur voilà, ce que vient de dire Odile, c'est-à-dire sur la question centrale là, du maintien du revenu entre l'allocation chômage et la retraite. Voilà, parce que c'est comme ça l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de rupture, évidemment. Alors, on peut maintenir les droits jusqu'à l'obtention de la retraite, mais sous certaines conditions comme très très précises, hein, donc c'est pas du tout loin d'être automatique. Voilà. Sinon, de manière générale, la caisse d'assurance vieillesse, alors bon, tant mieux si elle t'a répondu rapidement, il n'y a pas de souci, tant mieux pour toi. Mais de manière générale, ce qu'on observe, c'est que les délais, parce qu'il faut dire, la caisse d'assurance vieillesse calcule, avec les informations qu'elle a, un âge de départ à la retraite de taux plein. C'est elle qui est en mesure de calculer ça. Bon. France Travail, lui, a un âge de fin d'allocation. Voilà, en fonction des droits qui ont été calculés. Donc, pour pouvoir faire la jonction sans interruption, il faut que les informations communiquées par la caisse d'assurance vieillesse soient exactes pour qu'il n'y ait pas de rupture. Mais au préalable, France Travail positionne d'abord une date en fonction de l'âge légal. C'est-à-dire que la seule façon de se baser, c'est en fonction de l'âge légal de la personne, de l'âge de départ de la retraite. Bon. Mais s'il n'y a pas les informations précises de la caisse d'assurance vieillesse qui sont communiquées, c'est là qu'arrivent les ruptures. C'est là que France Travail potentiellement va indemniser jusqu'à une certaine date. Voilà. Mais cette date-là peut être remise en cause une fois que les informations de la caisse d'assurance vieillesse sont reçues. Et ce qu'on a observé, c'est beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle les trop perçus. Les personnes à qui on réclame, justement à qui France Travail dit, nous on vous a payé jusqu'à telle date, mais on n'aurait pas dû vous payer, parce que maintenant on a la bonne date de retraite calculée par la caisse d'assurance vieillesse, et des personnes qui ont 63, 64, 65, etc., qui se retrouvent effectivement à recevoir des courriers trop perçus, où il est réclamé des sommes significatives. Voilà,
oui, plusieurs dizaines de milliers d'euros, quelque
part. Ça a fait un peu... scandale dans la presse, à juste titre, parce qu'effectivement, c'est des situations indéfendables, et parce que, tout simplement, au niveau d'un point de vue Île-de-France. Alors après, il y a peut-être des caisses où ça se passe bien, mais en Île-de-France, la caisse d'assurance, la CNAV Île-de-France, les délais observés, c'est pour fournir un document spécifique qui permet, et je finis là-dessus, d'avoir la date exacte, bah, les délais annoncés par eux-mêmes, hein, c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est 7-8 mois. Voilà, donc c'est-à-dire que tu es obligé de faire effectivement les démarches dans un délai très très en amont pour pas te retrouver justement au moment, à l'instant T, en situation de rupture, c'est-à-dire ni allocation chômage, ni droit à la retraite.
Voilà. Ah, oui, alors moi je voudrais faire une intervention, puisque d'une part, dans mon événement du mois de juin, je ne touchais aucun revenu émanant de France Travail à mon bénéfice. D'autre part, j'avais une décision de la CNAV qui m'indiquait ma date de départ à la retraite, mais qui n'est pas encore arrivée. Donc voilà. D'autre part, j'étais au travail, j'avais deux employeurs. J'ai persuadé mon conseiller France Travail de partir en formation. Ils m'ont accepté de financer ma formation. Et il était dit que je devais recevoir l'allocation de retour à l'emploi formation. Il suffisait que je pointe. De toute façon, je pointais et c'était indiqué que j'étais en formation, sauf que je n'ai pas perçu de revenus. Et c'est à la sortie de la formation que j'ai dû gérer ça. Alors donc, on va dire qu'avant, j'étais jeune et que j'avais encore plein d'énergie et que j'ai dû utiliser tous les arguments pour dire que j'étais bonne pour l'emploi, pour ce nouvel emploi, grâce à cette formation dont j'ai décroché le financement. Puis en cours de route, on m'a tiré le paillasson sous les pieds. Et donc, il a quand même fallu que je gère un certain nombre de stress, hein, un découvert financier, enfin... Et c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Là, je suis calme, hein, parce qu'au mois de juin, j'étais quand même dans un autre état. Hein. Et surtout, un de mes employeurs a bien voulu me fournir du travail. Bon, c'était précisément l'emploi que je voulais quitter, mais j'y suis toujours.
Le monde autour de lui n'est qu'oppressant silence, que trouble de temps à autre le moteur d'un frigo et quelques clapotis de gouttes qui s'élancent, se jeter puis se vautre au fond d'un lavabo. Le temps s'égrène long comme un jour sans clope, il roupille à demi la tête dans ses manches, il grogne, il se morfond, maussade, misanthrope, il s'emmerde et gémit. Aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche. Il s'emmerde et gémit la bien grise mine, mais il s'emmerde autant les jours de semaine. On lui a pris sa vie en prenant son usine, c'est fou comme on s'ennuie sans travail à la chaîne. Le temps est si pesant qu'on le dirait solide, on pourrait pour un peu le découper en tranches. Il lui vient par moments des envies de suicide, il s'emmerde copieusement. Aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche. Il s'emmerde copieusement, il a des remords. Que faire à 50 ans quand on s'est fait lourder? Il bossait dignement pour enrichir des porcs qu'il exploitait grassement et puis qu'il embradait. Le temps galère en vain, il nage dans le potage, dans un visqueux bourbier gluant comme une tanche. Il entend des voisins qui s'engueulent à l'étage, il s'emmerde à crever. Aujourd'hui c'est dimanche. L'entreprise s'est fait indemniser, le voilà millionnaire. Pourquoi les ouvriers que cet homme méprise ne l'ont pas égorgé comme il devrait le faire? Et tout à coup le temps a statifié sa danse. Et puis le cliquetis d'une arme qu'on enclenche. Un bruit assourdissant qui déchire le silence. Le temps est reparti.
Aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche. Le monde autour de lui n'est qu'oppresse en silence, que trouble de temps à autre le moteur d'un frigo. La porte s'ouvre un cri, le bruit d'une ambulance, du sang de la cervelle jusque dans les rideaux. Était-il si aliéné? 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 De labeur qu'avant de se flinguer, de se faire sauter le caisson, il n'est pas décidé de vider son chargeur dans les têtes du conseil d'administration.
Vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 MHz, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'était Carmen Maria Vega avec le titre Brad.
Bradé.
Bradé même, trop mis l'accent. Ben voilà.
C'était encore gay, c'est vrai que ça dynamise, ça nous donne envie de partir à fond la caisse. D'habitude c'est les musiques d'Eric, là il nous met les Ramones... Alors qu'on aura besoin un peu de repos, là, bah, là c'est des trucs, on va se flinguer tous, là. Suicide collectif. Radio Libertaire.
Non, c'est pas prévu.
C'est une blague, c'est une blague.
Bah oui, mais moi, je préfère le dire, quand même.
Il faut qu'on fasse des émules.
Je vais intervenir, je ne veux pas dire grand-chose, mais sur Attal, parce que tu as parlé d'Attal, une de ses mesures, c'est notamment le contrôle. Alors, je ne sais pas s'il y a eu le temps de le mettre en place. C'est-à-dire multiplier par 3... le nombre des contrôles opérés par France Travail auprès des demandeurs d'emploi inscrits. Donc ça aussi, ça corrobore en fait ce que tu disais à propos de ses projets politiques. Alors je ne sais pas ce qu'il en est sur le terrain maintenant, parce que ça c'était l'an dernier quand il était Premier ministre. Mais les Premiers ministres ne durent pas trop en ce moment, parce que pour plus mal, il reste. Et puis autre chose, Jade, c'est pour ton relevé de carrière que tu dépends de 5 oui. caisses. Mais c'est la dernière qui va s'occuper de ton dossier.
De mon cas.
Oui. Pas de ton dossier de retraite. C'est toujours la dernière. Oui. Et quel que soit le temps passé à cotiser auprès de chacune des caisses. Et puis...
On va tous en prendre chacun notre tour.
oui, je vais venir avec un toi. Alors, sur les il y a aussi, faut quand même tuer un mythe. C'est-à-dire que chômeur feignant, chômeur indemnisé à ne rien faire, etc. Alors, il faut savoir que, moi, sur les chiffres, en tout cas, de l'été 2024, sur 6,2 millions de chômeurs, il n'y avait que 3,7 millions d'allocataires de l'assurance chômage. En fait, ça représente que soit à peine 60% déjà, et d'une. Et parmi ces 2,6 millions, ces 6,2 millions, c'est 2,6 millions qui étaient effectivement indemnisés. Donc 70% des 60%. Donc en fait, ça fait en gros 40% des indemnisés. Voilà, en moyenne, et j'ai vérifié ça en séquençant sur plusieurs années. En fait, on arrive autour de 4 sur 10. Quoi. Donc, les allocations ne sont pas. La plupart des allocations sont loin d'être.
Faramineuse.
Donc voilà, c'est bien de le préciser aussi.
Et ça s'effrite, parce qu'avant c'était 50%, maintenant c'est plutôt 40%.
Ça vous l'aviez dit, il y a une baisse effectivement. Alors elle est sensible, mais elle est de toute façon prononcée et constante. C'est bien la seule chose qui soit constante dans ce pays.
C'est les baisses.
C'est les baisses.
Moi, j'ai un petit chiffre qui est intéressant aussi, parce qu'on nous dit qu'il y a une forte remontée des taux d'emploi des seniors actuellement. Alors, bon, dans les chiffres officiels de l'INSEE, il y a autour de... Bon, entre 50 et 54 ans, on a un taux d'emploi autour de 70-80%. Après 55 à 59 ans, 60%. Après, on arrive à 60-65 ans, on est autour de 30%. Simplement, le problème de ce qu'on ne nous dit pas, c'est sur quelle base dit-on dans les chiffres officiels qu'une personne est en emploi. Bon, j'ai consulté cette étude de l'INSEE, j'arrive à la page 37 qui est la dernière page, et on m'explique qu'une personne en emploi, c'est une personne qui a travaillé au moins une heure dans la semaine de référence de cette enquête-là. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument compléter... Il faudrait compléter ces données-là par le taux d'emploi réel compte tenu du temps de travail des gens. Voilà. Et ces données-là, on les a pas. Parce qu'il y a beaucoup d'emplois, et je pense aux femmes notamment, qui sont des emplois chez des particuliers qui font au maximum 8 ou 10 heures par semaine. Hein, donc, si on complète ça par les données sur les horaires effectifs que font ces personnes-là, bon, on voit bien que ça ne donne pas des taux d'emploi qui sont dits dans les données officielles. Voilà. Et je peux encore vous dire une autre chose, c'est donc concernant les personnes qui ont entre 62 et 67 ans aujourd'hui et qui sont inscrites à France Travail, eh bien, d'une part, les situations de ces personnes-là sont souvent très compliquées parce que cumul emploi chômage, etc. D'autre part, on a des réglementations qui sont très complexes, et ce qui augmente les risques d'erreur dans l'appréciation de ces personnes et dans l'information qui est donnée à la fois par les caisses de retraite et par les conseillers de France Travail pour organiser le départ à la retraite. Là-dessus, il faut quand même dire qu'on a un vide sur le plan des informations disponibles, et on a tout un tas de causes d'erreur qui viennent du fait qu'il y a des problèmes de transmission entre les administrations, comme l'a dit Luc tout à l'heure, c'est notamment les caisses de retraite qui ont du mal à traiter les dossiers parce qu'elles n'ont pas le personnel qu'il faut, ou bien encore qu'il y a eu des erreurs dans la transmission des données. Certains relevés de carrière ont pu être incomplets, ce qui fait qu'effectivement, des milliers de personnes doivent, après, une fois qu'elles sont retraitées avec une petite retraite, rembourser des indus à France Travail. Parce qu'on a cette période de vide, et avec des situations extrêmement compliquées. Et d'ailleurs, il y a une réglementation de l'UNEDIC qui dit que ces personnes-là ont des droits éventuellement à conserver leur indemnité de chômage jusqu'au moment du départ de la retraite à taux plein, dans la limite de leurs droits acquis. Simplement, les conditions sont extrêmement compliquées, parce qu'il faut au moins avoir travaillé au moins un an dans les 5 dernières années, au moins avoir 100 trimestres validés pour la retraite, au moins 12 années d'affiliation. Enfin, il y a tout un tas de conditions à remplir. Voilà.
Mais je voulais faire un petit aparté, puisque justement, Luc parlait de dématérialisation. Toi, tu as évoqué effectivement le manque de personnel chez France Travail. Et effectivement, le fait de la dématérialisation, je me tourne vers toi, Luc, c'est aussi peut-être pour... pouvoir réduire un petit peu la masse salariale, enfin le nombre de personnel chez France Travail, puisque le travail est fait en amont par le demandeur via son... Je sais pas ce que t'en penses, oui. Et puis du coup, il supprime, donc il y a encore moins de monde du coup chez France Travail pour traiter les dossiers. Et enfin, c'est un cercle vicieux, et donc...
C'est ça.
C'est exactement ça. De toute façon, ils ont... C'est un mouvement un peu de... Bon, qu'il n'y a pas qu'à France Travail, mais en tout cas, bon, pour prendre que France Travail, ce qu'on peut appeler ils organisent le transfert du boulot. C'est comme quand dans le supermarché, quand tu n'as plus de caisse,
caisse automatique.
Là, c'est pareil. Quand ils le transfèrent de la même façon dans le service public, où c'est l'usager qui doit faire le boulot lui-même de, bah, je vous dis, de remplir le script d'inscription, de faire toutes les démarches, etc. sur Internet, avec les conséquences que ça peut avoir des fois. Parce que de toute façon, ils ont un problème, entre guillemets, c'est-à-dire que il y a une augmentation massive des inscriptions depuis la loi plein d'emploi du 1er janvier 2025, où de toute façon, ils ont inscrit d'office les allocataires du RSA à France Travail. Hein, voilà, donc ça sont allocataires et conjoints ont été inscrits d'office. Donc on a vu effectivement là, France Travail, les chiffres, c'est à peu près 7,5 millions d'inscrits hein, depuis janvier en tout. Hein. Voilà, donc pour gérer toute cette masse-là, sans embaucher, bien sûr. Au contraire, là, le budget de le Cornu prévoit encore des suppressions de postes. Donc, gérer tout ça sans embaucher, évidemment. La seule possibilité, c'est dématérialiser à fond. C'est aussi sous-traiter massivement. Hein. C'est faire appel massivement aux sous-traitants privés parce que c'est quand même aussi un business intéressant hein, de pouvoir gérer les prestations. Et les allocations chômage, donc sous-traitance massive. Voilà, donc il y a. Voilà, ça s'accumule, ça s'accompagne de toute façon d'un mouvement général de casse du service public, et à la fois voilà, de dégradation des droits des travailleurs privés d'emploi, des conditions de travail des salariés de France Travail. Donc nous, c'est pour ça qu'on dit, une des choses qu'on dit, c'est que des deux côtés du guichet, comme on dit, on a des intérêts communs à défendre contre et le gouvernement, évidemment, hein, et notre direction hein, qui essaye de nous embarquer dans sa politique-là. Et justement, tu en parlais tout à l'heure, le contrôle, ça c'est un axe central, parce que bon, l'objectif de ça, bien sûr, c'est... de faire accepter tout et n'importe quoi comme boulot, y compris dans les pires conditions. Et donc, derrière, ils ont besoin que les salariés de France Travail, bah, ils jouent le jeu aussi, forcément. Donc, tu as à la fois le discours que tu disais sur les chômeurs assistés et feignants qu'il faut remettre au boulot, quelles que soient les conditions, et à la en passant par, évidemment, l'objectif de triplement des contrôles, hein, ça c'est pas rien, et avec en mettant une organisation en place, une organisation spécifique. Parce que les contrôles, fondamentalement, ils sont faits par des plateformes qui ne sont pas dans les agences. Il y a des plateformes spécifiques de contrôle avec des agents qui font que ça, toute la journée. Et ils ont donc augmenté les objectifs de contrôle, et ils ont aussi forcément évidemment simplifié. C'est-à-dire qu'avant, tu devais passer par un questionnaire, une première étape, avant d'aller plus loin pour décider si il y avait le contrôle était satisfaisant ou pas, entre guillemets. Là, le questionnaire est supprimé, et donc ça se base uniquement sur une première lecture du dossier, avant d'aller plus loin. Donc comme ça permet de gagner du temps, évidemment, de gagner et d'augmenter les objectifs. Donc ils ont besoin de ça, voilà, avec aussi un discours... consiste aussi à éloigner le public des agences, de compliquer l'accès, tout en menant une politique aussi très violente, hein, parce que bon, la baisse des allocations, c'est voilà, tu as dit, ben c'est voilà, c'est à la fin du mois, comment
permet,
tu fais ?
Ça permet de subsister,
voilà,
de nourrir,
voilà, mais en même temps en renforçant à la fois la tout l'aspect, tout le volet sécuritaire. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, dans les agences, en fait, en gros, depuis ce qui s'est passé à Valence, pour ceux qui s'en rappellent, en 2021, où il y avait eu une conseillère qui a été assassinée, mais bon, c'est voilà, qui se trouvait effectivement là, voilà, quelqu'un qui est rentré, bon, mais après, c'est bon, on pourrait rentrer dans le détail, mais c'est pas le sujet, mais en tout cas, depuis, c'est une façon d'augmenter cette logique-là aussi sécuritaire par rapport à aux chômeurs de renforcer les contrôles d'accès, les liaisons, les liens avec avec la police, la gendarmerie, enfin bon, tout un tas de dispositifs qui font que bon, pour finir, voilà, tu transformes un peu France Travail et en organisme de contrôle et un peu un bon cœur assiégé qui doit se protéger des chômeurs qui subissent une politique agressive, quoi.
On a le même type d'effet à la caisse primaire d'assurance maladie. où ça devient effectivement, on bunkerise, on est filtré, il y a des vigiles et on n'arrive que sur rendez-vous. C'est assez rare d'être pris, sauf à des horaires, mais alors les horaires, faut faire le siège dès le matin à 7h, et puis vraiment être persévérant pour obtenir un rendez-vous. Mais on a le même type de politique, mais d'ailleurs.
Je crois que ça se généralise, effectivement, c'est pour tous les services, pour tout ce qui est de l'administration, en fin de compte.
C'est la question physique, c'est-à-dire tu te présentes au service et en fait il n'y a plus de service public, tu veux te présenter à une caisse de retraite, tu ne peux pas être reçu, il n'y en a pas. Moi j'ai même fait la démarche pour le 20e, là, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse, il y a des travaux, tout ça, enfin il n'y a plus d'accueil physique pour les caisses de retraite. Pour d'autres services, il y a encore un accueil physique, mais avec ce que tu viens d'évoquer, hein, Eric. Et puis il y a aussi tout ce qui se passe au niveau numérique, parce que déjà il faut une sacrée bonne maîtrise du français, tout connement, hein. Et puis du temps, parce que quand tu t'inscris la première fois, hein, franchement, d'ailleurs c'est bien, hein, le système d'information de France Travail permet de faire des pauses. Vous pouvez reprendre votre inscription plus tard, parce que ça dure des plombes, une première inscription, parce que moi, la mienne, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai faite, mais j'ai aidé d'autres gens à s'inscrire, hein. Ben, il faut vraiment avoir du temps. Enfin, j'ai pas du temps à perdre, mais du temps, parce que le questionnaire, il est long comme, je sais plus quoi, comme on dit, une messe basse, je sais pas, ou une messe...
Un jour sans pain.
Merci. Excuse-moi, mais mes fondements culturels sont en train de se dissoudre complètement. Alors, sinon, je voudrais vous parler d'un point, parce que qui est bizarre, indépendamment du fait qu'il y a des lettres capitales et des lettres minuscules, ben pour ça, dans la loi, j'ai jamais vu une loi qui a des lettres capitales ou une loi qui a des lettres minuscules. Hein. Franchement, ça, c'est une création.
Mais ça, c'est des trucs qu'on voit dans le commerce. En gros, en capital, on t'attire pour que tu achètes le produit et puis t'as les restrictions qui sont tout petits en bas.
Non, mais là, c'est le contraire. Là, en fait, c'est ce que j'ai compris sur cet aspect-là, c'est qu'il y a des bibliothèques de paragraphes dans le logiciel qu'ils utilisent, France Travail. Alors, il y a des choses qui sont restées, alors qu'en fin de compte, théoriquement, le premier paragraphe, à force de loi, il n'y a pas besoin de mettre le deuxième, quoi. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc je suis moi toujours en action contre France Travail. Donc j'ai fait un recours hiérarchique par voie recommandée traditionnelle, hein, pas numérique, la recommandée traditionnelle. J'ai encore été voir la Poste. Et puis là, je saisis le médiateur de France Travail parce que c'est la procédure. Et ensuite, comme j'étais la meilleure en droit administratif de ma promo, je vais aller au tribunal administratif parce qu'il faut bien que ça me serve à quelque chose, même si c'est 40 ans plus tard. Hein, ça me permet de mettre à jour ma jurisprudence, puis surtout de la faire évoluer. C'est ça mon projet. Bah oui, on a les projets qu'on peut. Hein. Bon, et sinon, sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que depuis, donc, j'ai reçu un courrier d'une caisse nationale d'assurance vieillesse qui reprend les mêmes termes que la décision de France Travail. Et en substance, c'est on me demande de fournir les justificatifs suivants, ouvrez les guillemets. Soit le courrier chômage indemnisé régularisation de carrière, soit l'un des deux courriers du régime agricole, rejet France Travail, ou, alors il y a plein de guillemets, hein, chômage indemnisé, régule de carrière, soit la notification de retraite, ces courriers sont délivrés par votre caisse de retraite. Alors ça, c'est France Travail qui m'a écrit ça, hein, qui m'a écrit ça le 16 juin dernier. Bon, je fais mon recours hiérarchique, lettre recommandée, voie manuelle à la Poste, comme je viens de vous le dire. Et là, au bout de 2 mois, je reçois une lettre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui reprend exactement le même vocabulaire que France Travail m'a soumis le 16 juin. Mais sauf que moi, je ne suis plus un sujet de droit. Je ne suis pas un sujet de droit. Moi, je suis un objet qu'on balade. Et là, il n'y a pas de procédure d'urgence qui m'a été proposée. Parce que normalement, moi, après, j'avais un projet en fonction de mon profil. Parce que je suis toute neuve dans un métier, mais je n'ai pas l'expérience. Mais les gens, quand ils voient mon look. Donc, ils projettent sur moi des attentes liées à mon look, on va dire ça comme ça. Et donc, implicitement, à mon âge. Et j'avais des projets de me former pour répondre. Parce que je n'ai pas la connaissance tout à fait de ça. Et au lieu de ça, je me retrouve le bec dans l'eau et je retrouve à mon activité d'avant. Bon, peu importe. Je vous rends la parole.
Non, c'est comment parler des réductions de postes. C'est la même personne qui fait France. Non, je plaisante. France Travail. Et,
mais non, c'est même pas une personne, c'est une intelligence artificielle.
Qui fait France Travail et la CNAV.
Oui, c'est ça, ça doit être ça. C'est pour ça, comme ça. Après, il y a
les. Luc, c'est un sous-traitant. C'est un
sous-traitant.
Un sous-traitant.
On fait des économies de lignes de code. Voilà, c'est ça. En fait, quand ils ont fait, c'est les mêmes lignes de code qui servent pour la.
Non, plus sérieusement, il y a deux choses. Parce que dans les lectures que j'ai pu avoir sur France Travail, les dernières, c'est il y a quand même une précarisation de France Travail, enfin des travailleurs de chez France Travail. Mmh. Tu pourrais nous les confirmer ou pas, je ne sais pas. Voilà. Et puis moi, ce que j'ai relevé, c'est dans Le Monde du 24 avril de l'année dernière. En fait, il y a. Et c'est, je file ce que tu disais tout à l'heure, Odile. En 2023, il y avait plus de 52 000 requêtes. De mécontentement, hein. Attention, c'est pas des vœux. Et c'est en augmentation de 16% par rapport à l'année antérieure, qui elle-même est en augmentation d'une quinzaine de pourcents par rapport à 2021.
Oui.
Donc en fait, alors j'ai pas de chiffre plus récent, mais à mon avis, c'est, donc tu fais partie, parce que ça a des effets.
Oui, gros malaise, quoi.
Ça a des effets sur les nouveaux. Les nouveaux futurs retraités ou ceux qui sont en délicatesse avec la caisse parce qu'elle n'a pas su traiter correctement leur dossier. Quoi. Et mais même leur parcours.
Non, mais surtout, c'est que si toi, j'essaie de me remettre dans mon état d'esprit du mois de juin. Je suis une active, ok. Je suis même dans le déni de la retraite pour aller jusqu'au bout des choses, d'accord. Je veux bosser. En plus, moi, j'ai changé de métier plein de fois dans ma vie, donc une fois de plus, pourquoi pas? Allons-y. Et au lieu de ça, parce que là, c'est vraiment un discours macronique, j'ai traversé la rue, j'ai trouvé une formation. Donc après, je pouvais encore traverser la rue et je trouvais un boulot. Sauf que j'ai quand même le droit de bouffer pendant 4 mois. Hein? Donc, vous avez vu, vous avez invité une macroniste à Radio Libertaire, hein, c'est craint.
Mais le droit de bouffer pendant 4 mois, c'est pas macroniste.
Non,
c'est avant et après, oui, ça c'est macroniste.
C'est parce que je dois être. Moi, j'ai un petit schisme un peu éclaté. Quoi.
Ah, si, c'est le droit de se serrer la ceinture pendant 4 mois, c'est macroniste quand même.
Moi, je peux vous donner un autre petit témoignage, là. Une copine, Sylvie, retraitée depuis 2017.
On va encore avoir un coup de fil ?
Retraitée depuis 2017, elle a 73 ans, elle a été formatrice et accompagnatrice de demandeurs d'emploi. Elle continue à travailler parce qu'elle a une retraite très petite, parce qu'elle a été dans la précarité une partie de sa vie. Elle s'est vue prélever sur son compte bancaire la somme de 2 300 euros en mai 2024, et d'autres petites sommes, sans justification, à la demande de France Travail. Et elle a cru comprendre que les sommes réclamées par France Travail correspondent à une période autour de 2007, où elle cumulait son ASS avec des petits boulots. Voilà. La procédure semble illégal, enfin en dehors des délais habituels, et en plus les documents qui lui ont été fournis sont pratiquement incompréhensibles. Voilà. Donc c'est.
Je dirais que c'est un peu dans l'ordre des choses. Quoi, si on,
oui, non mais.
Pour noyer le poisson, on envoie les documents habitables. Alors, ça fait le pendant à ce que vous disiez, Fabrice et Jeanne, parce qu'il n'y a pas besoin d'être étranger pour rien comprendre, rien piger à ce qui se passe, à ce qu'ils écrivent. De toute façon, c'est habitable. C'est fait pour.
Oui.
C'est fait pour, et puis il y a des petites subtilités où on ne sait pas si c'est un point d'interrogation, où il y a comme il n'y a pas forcément de ponctuation, c'est un point d'interrogation, si c'est. Y a une à chaque fois, il y a une subtilité, bah, une fois sur deux, d'ailleurs, on se plante à répondre à leurs questions, et ça peut être très pénalisant. Moi, c'est assez retors, en fait, c'est l'intelligence artificielle, peut-être. Parfois, derrière, il y a quand même des programmateurs, des programmeurs.
Oui, alors, pour aller dans le sens d'un psychisme complètement éclaté, et sachez que dans ma vie, j'ai acheté un bouquin, donc vous voyez l'épaisseur du bouquin, donc évidemment, je l'ai forcément.
Mais les auditeurs le voient bien, oui.
Oui, je l'ai forcément lu, aux éditions L'Harmattan, qui est un bon éditeur, enfin, traditionnellement. Et alors là, je vous donne le titre, vous allez rigoler. La vérification de la comptabilité en Chine à l'épreuve des modèles occidentaux. Alors, ce qui est intéressant dans, dans ce bouquin, en fait, c'est qu'en fait, il présente en détail le modèle français, un peu britannique. Parce qu'en fin de compte, nous, on est des Pékins de base. Tu crois qu'on a fait notre droit du, je sais pas, le droit du travail avec les indemnités et les pourcentages et au bout de combien de temps et si on arrondit et tout ça? On n'a aucune référence. Donc, on est traité comme des serfs. On n'a plus le droit au chapitre. Moi, on m'a dit que j'étais à la retraite. Je ne suis pas à la retraite. On m'a demandé de démontrer que je recevais un... Comment faire pour démontrer que tu ne perçois pas de retraite? Comment faire? C'est ça, les formulations négatives. Mmh. Tu vois? Et après, alors, donc, t'as un certain âge, donc t'es forcément dans un... une coulisse, quoi. C'est-à-dire, t'es plus sur le devant de la scène. Ça fait longtemps qu'on t'a mis de côté. Hein? Et en plus, tu dois démontrer... que tu ne touches pas de revenus.
Mais s'il y avait pas, c'est kafkaïen, mais c'est normal.
Bah oui, bah bien sûr, parce que c'est toi, Eric, qui parle. T'as l'habitude du Kafka.
Je crois aussi qu'il faut parler des effets du chômage sur le montant des pensions de retraite, parce que c'est ça qui est très grave, c'est que en fait, ce qu'on va réussir à diminuer par tous ces moyens-là, eh ben c'est le montant des pensions de retraite. Et une personne sur deux, il faut le rappeler, qui arrive à l'âge de la retraite, a connu des périodes de chômage, au moins une période de chômage. Et il faut rappeler aussi que certaines périodes, quand elles sont indemnisées en ARE, elles sont prises en compte pour le calcul des trimestres validés pour la retraite. C'est le cas aussi pour les personnes qui sont en ASS, mais ce n'est pas le cas pour les personnes qui ont été au RSA. Et alors, j'ai vu aussi une étude de l'adresse qui montre que les anciens bénéficiaires d'un minimum social à l'âge actif perçoivent, quand ils sont à la retraite, un montant de pension près de deux fois plus bas que celui des autres retraités, 863 euros bruts pour les premiers contre 1680 pour les seconds. Les personnes ayant reçu un RSA ou une AAH ont une pension de retraite moyenne de l'ordre de 600 euros par mois. Et la moitié d'entre eux bénéficient encore du minimum social pendant leur retraite. Donc vous voyez la grande injustice que c'est que d'avoir vécu du chômage au cours de sa vie. Et ça, ça affecte davantage les jeunes générations, ceux qui arrivent maintenant en activité. Parce qu'il faut dire aussi qu'à 30 ans aujourd'hui, un jeune qui a commencé à travailler et à cumuler des trimestres, eh ben, il a 11 trimestres de cotisation en moins par rapport à ce que c'était 20 ans à moins avant. Donc, le nombre de trimestres diminue pendant qu'on éloigne le moment du passage à la retraite. Voilà.
C'est encourageant, ça.
Bah oui, c'est... Hein? C'est...
Non, mais, moi, j'avais une... J'ai rencontré une hôtesse de caisse, justement, qui disait que... qui me disait récemment que les jeunes... ils sont moins assidus que les anciens, enfin, comme nous.
Oui, moi, au travail.
Au travail. Alors, pour faire des boulots de smicard.
Ben oui.
Mais après, on peut comprendre. Je crois qu'ils sont complètement désillusionnés hein, sur leur avenir, sur leur. Donc effectivement, s'ils profitent pas de la vie aujourd'hui,
Ils en profiteront jamais. Donc
jamais, oui. Jamais.
Donc, ils ont décidé d'en profiter maintenant.
On voilà. Va pas leur donc, oui.
On va pas leur mais la pierre.
Effectivement, moi, ce que j'ai répondu à c'est aussi une collègue, puisqu'on était dans la même sous la même enseigne. J'ai dit, ouais, ils sont peut-être un petit peu moins dociles que nous. Le regrettait. Ils sont moins travailleurs. Ils sont moins dociles. Non, mais peut-être aussi, que... parce que...
Oui, oui pardon. Moi, je vais parler de mon cas personnel, mais moi, j'ai 45 ans cette année. Je suis persuadée que je n'aurai pas de retraite.
Ah oui.
Et j'ai 45 ans. Alors, ceux qui commencent... Et j'ai commencé à bosser à 20 ans, à temps plein. J'ai eu un an de chômage en tout et pour tout, comme depuis que je bosse. Et je suis sûre que je ne pourrais pas vivre, en tout cas, de ma retraite. J'aurai une pension misérable.
Mais c'est différent.
Non, mais ceux qui ont 20 ans maintenant, qui commencent, qui arrivent sur le marché du travail, effectivement, c'est même pas la peine. Enfin, si moi, déjà, je pense ça, eux, qu'est-ce qu'ils doivent se dire?
Raison de plus, donc, pour dire, excuse-moi, que là, on me dit en plein dans les dents, ben, vous touchez une retraite, alors que je n'en touche pas. Donc, en fin de compte, c'est la foire d'empoigne. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règlement, il n'y a plus de fonctionnement, il n'y a plus de référence globale.
C'est l'anarchie, quoi.
Il y a un arbitraire, c'est sûr. Il y a une large part d'arbitraire.
C'est un désordre qui est... En fait, il y a deux choses. C'est un désordre, comme ça, apparent. Mais en fait, c'est un ordre qui correspond à... on ne dépense pas d'argent pour ceux qui font tourner la société, c'est-à-dire pour les 80% d'ouvriers, d'employés. Je mets dedans les cadres aussi. Hein, et puis, vous avez 20% de la société française, peut-être même moins, et ça va très vite à se réduire en pourcentage pour ceux qui détiennent les manettes des profits, de l'actionnariat, des jeux d'argent de haut vol. Mais pour eux, c'est il y a un ordre. Et l'ordre, c'est faut que ça me rapporte de plus en plus, de plus en plus. Et donc créer un semblant de désordre qui est perçu par nous comme un désordre, pour eux, c'est pas du tout un désordre. Le patronat qui faisait des rodomontades là il y a quelques semaines ou quelques jours, c'est juste ils n'avaient pas de descendre dans la rue pour manifester. Mais ça, c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est un jeu d'acteurs. En fait, ils s'en foutent complètement. Alors, bien sûr, il y a différents types de patrons. Hein. Il y a les petits patrons qui, pour certains, tirent un peu la langue ou même se plantent. Oui. Mais pour tous ceux qui font fonctionner les donneurs d'ordre, bah, ça ne change rien. Ils vont donner leurs ordres ici, peut-être ailleurs, et peut-être aussi ailleurs, d'ailleurs.
Oui, mais la richesse humaine, c'est pas la richesse en sous, hein, d'une part. D'autre part, bah, le café que tu vas laisser chez ton marchand de café et pour le copain qui peut pas payer son café, ça a une expression selon les régions, hein, mais ça existe. Et puis les AMAP, ça existe aussi, hein, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc chacun décide, hein. Moi, avec mon petit côté vérification de la comptabilité en Chine à l'épreuve des modèles occidentaux, tu parles que je m'en fous des modèles occidentaux et que tu parles que je m'en fous de la comptabilité chinoise, mais je fais partie d'une AMAP et ça fait super longtemps.
Oui, non, mais je dis pas qu'il n'y a pas des micro-solutions, mais qui sont des micro-solutions. C'est-à-dire qu'on s'arrange aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Monoprix, l'enseigne dans laquelle bosse Fabrice, elle a plus de poids qu'une cinquantaine d'AMAP, un millier d'AMAP réunis. Et pourtant, la valeur que tu peux leur accorder à chacune est totalement différente de celle que tu vas accorder à une enseigne comme Monoprix.
Non, mais on n'a pas de chercheurs qui se sont intéressés aux gens qui sont acteurs dans les AMAP. Mais je ne te raconte pas les économies en termes de santé, en termes de tonus, en termes de dynamisme, en termes de vie associative. Mais c'est extraordinaire. Oui. La preuve, c'est que j'y suis encore, alors que normalement, ils me mettent dans la retraite.
Mais comme tu es au chômage, tu as le temps d'y aller à la MAP.
Mais non, je ne suis pas au chômage, j'ai un travail.
Je ne conteste pas. Simplement, il y a un principe de réalité capitaliste, malheureusement, qui conduit encore largement les sociétés occidentales, dont la nôtre. Voilà. Donc après, effectivement, on fait de la résistance comme on peut, avec nos petits moyens. On l'a tous éprouvé ici, et on l'éprouve encore. Mais il faut se rendre à l'évidence que si j'ai pas plus de boulot demain, je vais aller chez AMP, enfin je sais pas, pour l'emploi France Travail en fait. Le successeur du STO. D'ailleurs, le STO, au passage.
Il est aussi haut, on s'accroche là.
Le STO, alors le STO, il ne s'est pas arrêté avec la guerre. Vous savez qu'il a été, par décret, il a été fermé le 20 septembre 1945, donc quelques mois après la libération du territoire national. C'est aussi un. Assez triste, mais c'est encore une prouesse française. Ouais. Non, c'est du petit aparté.
Oui, c'est bien.
Donc voilà, j'associe ça, c'est un peu comme tout tout ce qu'on a pu voir dans l'émission en ce qui concerne les successions d'organisations. C'en est une, ça, une organisation. Et on retrouve parfois des fonctionnaires qui.
Oui.
Parce que c'est Chirac, hein, c'est qui est sous son. Il était, je ne sais plus quoi, délégué, je ne sais plus quoi, en 67, qui a poussé à la création de la NPE. Et dedans, il y a des fonctionnaires qui dirigeaient le STO, qui s'en retrouvaient. Nous, on s'est organisé le travail, hein. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est une réalité.
Pour aller dans ton sens, effectivement, le greffier de la ville de Paris, il a traversé l'occupation et la libération de Paris, et c'était toujours le même greffier.
Eh ben voilà.
Et je suis d'accord avec toi, de ce point de vue. Mon
mais
frère,
peut-on le priver de travail pour qu'il puisse nourrir sa petite famille?
On va peut-être faire une petite pause, là, sachant qu'on est dans un cul-de-sac.
Eh ben, on va faire une pause, alors.
Une tasse de café froid sur la table de la cuisine, à la page des offres d'emploi, quelques journaux, des magazines. Le pire, c'est la solitude. Le pire, c'est ce foutu cafard. T'espères encore par habitude, mais dans tes yeux, y'a que du brouillard. Le monde peut faire ses grimaces, et au chômage, c'est dégueulasse. D'abord tu penses à une erreur, et puis les semaines se suivent, et c'est un peu de toi qui meurt à chaque lettre qui arrive. Dans les rues tu vois les vitrines, les gens pressés, la vie qui bat. Y'a comme un trou dans ta poitrine, mais eux ne te regardent pas. Tu te fous bien de ceux qui passent, et au chômage, c'est dégueulasse. De mirage en faux espoir, la vie se fait insaisissable. T'es comme puni sans savoir de quoi tu t'es rendu coupable. Tu n'en peux plus des mêmes doutes, des files devant les guichets, des fonctionnaires qui s'en foutent, et des copains apitoyés. Pas un ne peut se mettre à ta place, et au chômage, c'est dégueulasse. Il n'y a rien pour expliquer ou pour justifier ta galère, mais le pire, c'est d'accepter et de n'avoir plus de colère. Si un jour tu courbes la tête, surtout frangin, n'oublie jamais que ce n'était pas ta défaite. T'étais pour rien dans ce merdier. Moi je continuerai ma trace et j'irai gueuler à ta place. Et au chômage, c'est dégueulasse.
Vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire, 89.4 MHz, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'était Michel Buller avec Tu es au chômage.
Alors moi, je voudrais mettre dans le débat, et là je m'intéresse plus directement à Luc, j'ai découvert Yann Gaudin. Ça te parle, ça?
Ouais.
Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et notamment, il y a pour lui, Pôle emploi coche trois cases, comme il dit, l'orgueil, l'avarice et la paresse. Je pense que tu as lu sa prose.
Ouais.
Et j'ai trouvé que c'était assez juste. En même temps, peut-être pas complet, parce que j'ai pas fouillé énormément, ni son activité, parce qu'il a été 14 ans... salarié de Pôle emploi, puis licencié. Là, il est en procès contre Pôle emploi, toujours, je pense. Voilà. Donc, je te laisse la parole.
Non, mais oui, c'est on part. Yann Gaudin, il a effectivement, lui, il était salarié à France Travail, enfin, Pôle emploi à l'époque en Bretagne. Il a. Ce que la direction lui a reproché. C'est fondamentalement, c'est de faire son boulot, de renseigner au maximum les chômeurs, y compris même d'aller proposer au devant, en disant d'informer sur les droits. C'est-à-dire que c'est là où c'est paradoxal, parce que la direction nous dit voilà, il faut informer et tout, mais lui il le faisait, y compris il le faisait vraiment. Et ce qui était reproché, c'est qu'il le faisait au-delà de son agence, parce que normalement on est censé que s'occuper. Chaque agence gère une ville ou plusieurs villes, mais pas tout un département, etc. Bon, lui il est au-delà de ça, donc il était reproché de fondamentalement de faire ça. Alors bon, le prétexte, ça a été qu'il a mis un mauvais climat dans l'agence, etc. Bon, ils ont bien fallu trouver un prétexte. Mmh. Mais fondamentalement, ce qu'il leur reprochait, c'était d'informer, de trop bien informer, et donc derrière, d'ouvrir des droits derrière, parce que c'est ça, derrière la conséquence, évidemment, les usagers. Donc là, direction, elle est jusqu'au bout, la licenciée. Malheureusement, bon, il y a eu un soutien bien sûr, mais qui a pas été suffisamment.
Qui a pas infléchi,
qui a pas suffi à renverser la vapeur. Et donc derrière, il a monté un petit peu rapidement une activité justement de renseignement. Voilà, tous les gens peuvent le solliciter directement sur sa page Facebook ou sur son site. Et là, pour l'emploi qui est quand même très revanchard, l'ami en procès pourrait, en gros, un exercice illégal d'activité de conseil aux chômeurs, en gros. Hein, enfin, quoi. Oui, non, ils sont jusque là.
Je rigole, monsieur.
Mais oui, c'est vrai que ça montre bien la perversité de cet établissement.
C'est la bonne étoile.
Tout à fait, la bonne étoile.
Voilà, donner quand même la bonne étoile.
Et il a mis j'en profite parce qu'il a, bon, il a régulièrement aussi des frais d'avocat, donc il a fait passer des cagnottes et tout. Bon, c'est vrai que c'est important aussi à mentionner, parce qu'il a aussi besoin de soutien politique, je dirais, et financier, voilà, par rapport à ce qu'il mène, et par rapport à l'acharnement de la direction de France Travail contre lui. Mais du coup, au-delà de ça, c'est un bon exemple qui illustre, comme je pense, un peu la discussion qu'on peut avoir sur les relations, ce que tu disais, entre les salariés et le public qu'on reçoit, parce que, fondamentalement, comme tu as une politique qui est très violente, ça, forcément, ça tend à, je pense que c'est le cas de lire, à tendre les relations. Voilà, bon, des fois, ça peut être. Ça va pas, évidemment, toujours jusqu'à ce qui se passe à Valence, évidemment, mais en tout cas, c'est verbalement ou physiquement, effectivement, beaucoup de situations, des fois, compliquées, y compris avec des collègues qui sont aussi. Qui sont mis en difficulté, parce que les collègues précaires, donc forcément, quand tu débarques, t'as abordé à maîtriser 12 milliards de choses rapidement pour pouvoir répondre, et donc t'es mis en difficulté. Donc ça facilite pas les relations. Et donc, en tout cas, ça contribue évidemment à dégrader la situation. Et avec tout l'aspect sécuritaire que je disais tout à l'heure, justement, vigile, fermeture de l'agence l'après-midi, etc., etc. Bon, pour contribuer à augmenter ce climat-là. Et donc, par rapport à ça, y a pas 50 solutions. D'un point de vue syndical, pour faire le court. Soit t'accompagnes tout ça, t'accompagnes le discours de direction, faut nous protéger contre les chômeurs agressifs, etc., etc. Et donc, de fait, t'es embarqué sur la question des vigiles, des dispositifs de sécurité, etc., etc. Et là, tu te fais embarquer rapidement là-dedans, et ça devient quand même compliqué à défendre, parce qu'une fois que t'as mis le petit la main, y a tout le bras dans ce discours-là. Soit, et c'est ce que nous, syndicalement à Sud, avec d'autres, heureusement, d'autres syndicats de France Travail, la CGT, la FSU notamment, puis des équipes, des individus, depuis un certain temps, il y a une structure, un cadre qui organise, alors qui plus ou moins actif, plus ou moins vivant selon les périodes, qui devrait l'être aujourd'hui, mais bon, c'est pas toujours simple. Donc on appelait le collectif UNEDIC, mais bon, après, peu importe la limite, l'idée c'est d'avoir ce cadre-là qui associe syndicats de France Travail, associations de chômeurs, et puis tous ceux qui veulent, pour se bagarrer sur une plateforme un peu commune, quoi, qui matérialise concrètement les intérêts qu'on peut avoir des deux côtés du guichet. Et c'est-à-dire, pour faire l'essentiel, c'est autour de le retrait de la loi sur les contrôles, l'abrogation de la loi plein emploi, l'abrogation des réformations au chômage, et des embauches à hauteur des besoins, et l'arrêt de la sous-traitance au privé. Bon, en gros, autour de ces axes-là, qui sont des points qu'on peut défendre ensemble, et qu'on défend et par écrit, mais pas que, par un certain nombre d'actions qu'il y a eu ces dernières années. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, mais bon, il faudrait les reprendre, mais en tout cas, qu'on a mené en commun. soit sur la question des contrôles, soit sur la question de l'information en chômage. Concrètement, bah, c'est quoi ? C'était des occupations d'agence. Ce qui se faisait à une époque, pour les plus anciens, fin des années, au début des années 2000, quand il y a des occupations d'ACEDIC à l'époque, voilà, pour obtenir des allocations d'urgence. Bon, bah là, ça s'est fait aussi récemment à Pôle emploi, France Travail, pour obtenir des retraits de sanctions, pour obtenir le retrait de contrôle, etc. Ça s'est fait beaucoup, bon, beaucoup à Paris, entre autres, mais pas que. En Bretagne aussi, je crois. Bon, donc voilà, il y a ces cadres-là qui existent. Et en tout cas, nous, à notre niveau, on essaye de maintenir et de maintenir vivant, parce que c'est la seule solution. Sinon, effectivement, tu t'embarques dans les couloirs de la direction et tu en arrives à considérer que l'ennemi, c'est le chômeur et pas la direction. Je cache pas que c'est pas toujours évident par rapport aux collègues d'expliquer ça. On est un peu minoritaire là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. On l'explique parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Sinon, la seule issue, c'est de te barricader et puis de considérer qu'en face, tu as plus d'intérêt qu'avec le patron de Pôle emploi et le gouvernement qu'avec le chômeur. Bon, mais donc voilà. Donc, en tout cas, on maintient ça. Voilà. Oui.
Alors moi je voudrais juste dire une chose, c'est polémique, je suis fidèle à mon personnage de ce soir, mais il y a quelques années, en fin de compte, c'était chez France Télécom, devenu Orange, enfin, il y a eu une jurisprudence qui est sortie au niveau des CHCCT, où les syndicats étaient très présents, donc au Sud notamment, et qui était en fin de compte un management systémique pour planter le pécan de base, quoi. C'est l'époque où il y avait 20 000 personnes à dégager et tous les procès ont été gagnés par les syndicats, hein. Donc, vous prenez vos archives syndicales ou pas, ou juridiques, tout simplement. Mais moi, quand même, j'ai quand même vécu des choses bizarres. J'ai eu une sanction parce que je m'étais devenue... Je vous ai bien dit que mon prénom, c'était Jeanne. Grâce à France Travail, pendant 3 mois, je m'appelais Madame Jeanne, d'accord ? Donc, il a fallu que je monte au créneau.
On appelait au secours, Jeanne ?
Oui, on n'est pas chez Jeanne d'Arc là, hein, d'accord. Faut pas changer de rubrique.
Excusez-moi.
Ensuite, quand j'ai vécu ce que je vous ai évoqué là, j'ai reçu des questionnaires qualité de chez France Travail, tu vois. Ah vraiment. Là, le seul réflexe que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'ai diffusé tout ce que j'ai reçu sur une autre boîte mail, tu vois. J'ai stocké. Parce que, franchement, là, l'idée m'est venue en vous écoutant à l'instant, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais jamais fait le lien. C'est en fait un management systémique. C'est-à-dire, tu vois, tu es absent dans ta boîte, et le même jour, il y a le type qui va venir te voir pour tes congés payés, le même type qui va venir te voir pour ton arrêt de travail, un autre qui va venir pour tes résultats de production, l'autre qui va venir te voir pour ton, je sais pas quoi, encore autre chose. Et le mec, il pète les plombs, quoi. Mais le type qui vient te voir pour les congés payés, il est dans une bonne foi complète. Celui qui vient te voir pour les indemnités journalières parce que tu as été malade, il est dans une bonne foi complète. Celui pour la production aussi. Mais c'est pensé en amont par une identité, peut-être intelligence artificielle, mais on s'en fout. Et moi, j'ai quand même vécu ça. Hein. Et en même temps, on me demande toujours de prouver, enfin, on me dit que je reçois une retraite et qu'il faut que je démontre que je ne touche pas de retraite. C'est quand même la folie, quoi.
Je vous annonce qu'on arrive au terme de l'émission et que Odile n'a pas pu faire toutes ces lectures de témoignages. Ça sera pour une autre émission où, enfin, de toute façon, il va falloir rendre dans l'antenne parce que il y a l'émission juste après. Et puis, il y en a peut-être quelques annonces à faire. Quelqu'un, tu veux peut-être conclure, Odile ?
Ah bah, moi, rapidement, je veux quand même dire que comme a dit Luc tout à l'heure, malgré tout, il y a beaucoup de collectifs qui se sont créés sur un peu dans différentes villes, hein, dans un peu toute la France, notamment sur cette question de la du conditionnement du RSA à des heures de travail plus ou moins obligatoires, et sur d'autres problèmes qui concernent les sanctions. Et je pense que il y a un début de quelque chose qui ressemble à un mouvement. Alors maintenant, on peut le voir notamment en lisant les bulletins de Précarité Magazine.
On va en parler, on va faire la promotion pour le...
Voilà, sont édités par des militants, notamment de la permanence de la coordination des intermittents et précaires. et avec l'aide de nombreux collectifs sur le territoire français.
Voilà, bah, je vais mettre sur le site, pour ceux qui veulent réécouter l'émission, je mettrai sur le site, dans le cadre de l'annonce de cette émission, le lien pour aller sur précarité.magazine@gmail.com si vous voulez recevoir le Précarité Magazine, voilà, par mail. Voilà, dématérialisé.
Et on peut peut-être rappeler le lien pour le militant qui a été licencié par France Travail et pour soutenir sa cagnotte. Vous avez parlé de l'étoile, c'est ça?
La bonne étoile.
La bonne étoile.
Voilà. La bonne étoile. On pourra le remettre aussi sur le site, éventuellement. Et puisque ça tournait autour de France Travail quand même, le jeudi 23 octobre, à 13h30 au parvis de la mairie du 15e, 21 rue Péclet, Paris 15e.
Oui.
La guerre, c'est non, contre les forums de l'armée organisés par France Travail. Mm-hmm. Voilà. Bah, on vous engage tous à.
Tu ne nous engages pas, parce que là, c'est.
À vous rendre sur le parvis. Voilà, de la mairie du 15e. Oh, ils n'ont pas d'humour.
Mais c'est organisé par la CGT Chômeur et le collectif des maires isolés, entre autres. Le 23. Voilà.
C'est tout à leur honneur. Mmh. Voilà. Alors, j'ai 13h30, puis là, j'ai 14h. 14h à 16h, en fait.
Merci.
Donc, de 13h30 à 16h, vous pouvez vous rendre là-bas.
Voilà. Merci, Fabrice.
On va rendre l'antenne à... c'est le proton se rebiffe.
Bonne question.
Oui.
C'est le proton se rebiffe.
Voilà. On vous remercie, Luc, Odile, Jeanne, d'avoir participé à cette émission. On vous remercie les auditeurs et les auditrices de l'avoir écouté. D'avoir Anne, d'avoir appelé. Et puis Bénédicte d'avoir assuré la technique, Eric l'animation. Et puis on se retrouve dans 15 jours, le 3 novembre, pour une émission, une deuxième partie sur... Tu sais pas.
Ah oui, si. Ah, c'est pas vraiment une deuxième partie. Bon, c'est une émission, bon, c'est la suite. Ouais,
Tu nous dis ce que c'est le thème, puis voilà.
Non, parce que je l'ai plus en tête.
Ben, moi non plus. Oui. Ben, je comptais sur toi, c'est pas grave. C'est sur le site de Radio Libertaire.
J'ai plus ma tête. Moi.
Dans la programmation du Le Monde Merveilleux du Travail, on se retrouve donc le 3 novembre. 19h30, 21h, et merci encore à vous trois d'être venus. Merci. Et puis, vu que quand vous voulez revenir, si vous voulez continuer, il n'y a pas de problème. On en refait une.
Ça marche.
Ciao.
Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux,
c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Que les citoyens donnent plus volontiers leur vie que leur argent, voilà un paradoxe assez fort. Ceux qui exposent leur vie jugent peut-être qu'ils donnent assez. Examinons ceux qui n'exposent point leur vie. Beaucoup se sont enrichis, soit à fabriquer pour la guerre, soit à acheter et revendre 1000 denrées nécessaires qui sont demandées à tout prix. J'admets qu'ils suivent les prix. Les affaires ont leur logique, hors de laquelle elles ne sont même plus de mauvaises affaires. Bon. Mais l'infortune faite, ne va-t-il pas se trouver quelque bon citoyen qui dira « J'ai gagné 2 ou 10 millions, or j'estime qu'ils ne sont pas à moi. En cette tourmente où tant de nobles hommes sont morts, c'est assez pour moi d'avoir vécu. C'est trop d'avoir bien vécu. Je refuse une fortune née du malheur public. Tout ce que j'ai amassé est à la patrie. qu'elle en use comme elle voudra, comme elle voudra. Et je sais que, donnant ces millions, je donne encore bien moins que le premier fantassin venu, fermer les guillemets du bon citoyen qui disait. Aucun citoyen n'a parlé ainsi. Aucune réunion d'enrichis n'a donné à l'État 200 ou 300 millions. Or, si la patrie était réellement aimée plus que la vie, on connaîtrait ce genre d'héroïsme. Et même, puisque celui qui donne sa vie devait la donner, les héros du coffre-fort donneraient encore moins que leur dû. Cela prouve, il me semble, que l'amour de la patrie, lorsqu'il se manifeste par l'action militaire, est certainement soutenu et réchauffé par d'autres sentiments, sans doute naturels à l'homme aussi, mais cultivés par l'art militaire, le plus ancien et le plus savant de tous, tandis que l'art du percepteur est encore dans l'enfance. Donc voilà, c'était le premier texte que je viens de lire de Mars et la guerre jugée, et je dois avouer que cet argument mordant, où Alain dit « mais c'est bien gentil, tout le monde parle, tout le monde dit « on va donner notre vie », eh bien, logiquement, effectivement, les gens qui s'enrichissent à la guerre, qu'ont-ils donc donné ? Et ils devraient donc rendre le superflu. Et puis cette fin, sur l'art militaire le plus ancien et le plus savant de tous, il s'agit bien entendu là, non pas de l'art de la stratégie ou de la tactique de comment gagner une bataille, non, non. Là, c'est l'art militaire, c'est l'art du service militaire. C'est l'art de faire en sorte qu'à nouveau, des citoyens qui n'en ont pas nécessairement envie a priori, acceptent de devenir des machines à tuer et à être tués. Le second texte, page 11, parle des passions. Alain va beaucoup parler dans ce livre des passions, à nouveau manipulées par l'art militaire, qui est bien entendu, ces deux mots-là sont le cache-sexe de les manipulations par les puissants et les riches, qui veulent que d'autres aillent au casse-pipe pour que eux puissent s'enrichir.